Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, où on parle, on réfléchit à des séries ou à des films qui parlent de la guerre, alors en l'occurrence aujourd'hui aussi à des livres qui parlent de la guerre, puisqu'on va parler d'un film adapté d'un livre, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le colonel Michel Goya, colonel à la retraite des troupes de marine, historien, écrivain, qui est évidemment un habitué du podcast, qu'on reçoit régulièrement, donc qu'on a le plaisir d'entendre régulièrement. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, c'est pour parler d'un film qui, comme je l'ai déjà dit, est adapté d'un livre. Il s'agit évidemment de Dune, qui est tout à fait sur le premier plan de l'actualité en ce moment, parce que le film de Denis Villeneuve est sorti il n'y a pas longtemps. Il est sorti même il y a quelques jours aux États-Unis. Pour une fois, le film est sorti en Europe avant les États-Unis. Adapté évidemment d'un très grand roman, ou plutôt d'une série de romans de Frank Herbert, paru, disons, dans les années 60. Le premier livre est paru en 1965. Et sur lequel, Michel, vous réfléchissez, vous écrivez depuis un certain temps. Alors, je peux renvoyer notamment à des posts sur votre blog, La Voix de l'Épée, où vous réfléchissiez déjà à l'art de la guerre dans Dune. Vous avez aussi écrit récemment dans le MOOC, donc disons la revue livre consacrée à Dune, dirigée par l'ami Lloyd Sherry aux éditions de La Talente. Alors, Michel, la première question que j'aurais aimé vous poser, c'est d'une part, quand est-ce que vous avez découvert Dune, l'univers de Dune, et puis ensuite, qu'est-ce qui vous a intéressé en tant que militaire là-dedans? C'est-à-dire, qu'est-ce qui... Alors, parce qu'on peut dire que c'est une grande fresque SF, évidemment, mais avec un imaginaire très guerrier, très féodal aussi. Qu'est-ce que, quand vous l'avez découvert, qu'est-ce qui vous a titillé en quelque sorte dans ce que contenait ce Dune de Frank Herbert?
Alors, j'ai lu Dune... Le premier, parce que c'est effectivement une série de 6 signée de Frank Herbert, puis après ce sera exploité et surexploité ensuite par d'autres. Mais c'est vraiment le premier livre qui est, que je trouvais particulièrement intéressant, que j'ai lu longtemps.
On peut le dire sans voilà, chacun se fait son avis, mais quand même le premier est bien meilleur que tous les autres. Le deuxième, ça va encore un peu, et puis après ça pique du nez assez nettement.
Nous sommes d'accord. Mais c'est vraiment bien. Je l'avais lu d'ailleurs un peu, quasiment en même temps que l'Iliade d'Homère, qui est un de mes livres préférés, où on retrouve quand même un certain nombre de points communs. Quoi. Mais ce qui m'a intéressé, c'est d'abord c'est un livre d'une grande richesse. C'est un univers... qui est particulièrement fascinant, quoi, qui est complètement baroque, mais qui est à la fois baroque et très cohérent dans son côté baroque, et qui est très, très intéressant, qui est très complexe. Alors, Herbert a pratiquement inventé un genre, le genre de l'univers, l'univers cohérent et complexe avec... à l'intérieur, toute une série d'enjeux politiques, d'enjeux idéologiques, et puis d'enjeux militaires. Quoi. Alors après, c'est côté, j'allais dire, professionnel, qui m'a fait aussi intéresser à la manière dont effectivement les choses se déroulaient. Comment fait-on la guerre, cet acte politique, comment on le fait dans Dune. Mais voilà, mais c'est ce mélange à la fois, comme je dis, c'est un monde féodal, c'est à la fois féodal et futuriste. Et ça donne quelque chose d'assez intéressant qui a été repris en réalité par beaucoup d'autres auteurs. On trouve des éléments de Dune dans beaucoup, beaucoup d'œuvres de science-fiction par la suite, hein, jusqu'à la guerre des étoiles. On trouve ces éléments, la présence de héros particuliers, la présence, ce caractère un peu duel. Enfin, ça contient énormément de choses, et voilà, donc c'est mon livre de science-fiction préféré, très largement, et puis, là, trouve ça très intéressant. Hein.
Alors, on
Et
peut
on y
dire.
retrouve aussi, oui, beaucoup de choses aussi qui sont, hein, utiles, intéressantes dans l'art de la guerre. Hein.
Bah justement, c'est un art de la guerre assez subtil qui est décrit parce que c'est à la fois un monde. Alors, c'est là que la féodalité est pertinente parce que, à la fois, c'est un monde, plutôt un univers qui est fait par des grandes maisons, qui rappellent évidemment les grandes maisons nobles, disons, de l'époque médiévale au sens large, pas que médiévale d'ailleurs. Et en même temps, c'est aussi un monde où la guerre est en permanence présente, mais avec quelque chose de très XXe siècle en termes de transposition, qui est la notion de tabou, la notion qu'il y a des armes interdites, qu'il y a des armes auxquelles il ne faut pas toucher. Alors ce sont des choses qui sont assez peu présentes d'ailleurs dans le premier livre, et aussi bien que dans le film, même s'il y a des références. Ce sont par exemple la notion des atomiques, alors ce qui ressemble évidemment à des armes nucléaires, même si c'est pas aussi clairement décrit que ça. Et donc c'est une espèce de jeu de dialectique en permanence entre un monde qui évidemment est complètement baroque, fictionnel, qui en même temps prend des choses de l'histoire occidentale au sens large, et pas qu'occidentale, parce qu'il y a des références orientales assez appuyées aussi. Donc, disons, quels sont les points de transposition? Quels sont les trucs qui vous ont fait réfléchir? Peut-être, commençons par là, quelle est la première chose où vous vous êtes dit, ah ben là, en fait, ça parle de la guerre aussi, de la guerre qu'on connaît, de la guerre du XXe siècle?
Alors oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Herbert pose un certain nombre d'axiomes pour faciliter son récit, hein, des axiomes qui vont un petit peu à l'encontre de la tendance même de son époque. Alors très clairement, par exemple, il interdit les ordinateurs. Il y a une convention qui interdit les ordinateurs, alors que c'est un thème qui est très qui est assez qui apparaît à cette époque dans la science-fiction, l'idée de l'ordinateur surpuissant. Bon, là, il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de robot, il y a il ne conserve que des choses qui lui permettent de décrire une guerre féodale, à la fois féodale, il y a cet aspect, mais il y a aussi un aspect comment dire, de contre-insurrection, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire que les événements se passent sur une planète. Planète Arrakis ou Dune, planète très particulière, et où il y a en réalité deux affrontements superposés. Il y a un affrontement de type féodal entre familles, qui est forme d'affrontement régulier, on va appeler ça comme ça, et puis il y a un affrontement aussi entre certaines de ces familles, la famille Harkonnen, la terrible famille Harkonnen, et l'empereur contre les Freemen, donc ce peuple qui vit, qui s'est adapté au milieu extrême de la planète Arrakis et qui vit sur place. Et là, on est dans une autre forme de conflit, conflit de type contre-insurrectionnel, c'est-à-dire que là, on affronte un ensemble de clans, de tribus, avec une autre culture militaire, les grandes maisons. Sont des armées, les armées des grandes maisons sont des armées professionnelles, petites, professionnelles, comme nos armées régulières actuelles, et elles font face à, en réalité, un peuple armé, où, dans une autre logique, tous les individus, hommes et même femmes, en l'occurrence, sont potentiellement aussi des guerriers, sont également des défenseurs de la tribu et du clan. Et donc, on est dans une autre forme de guerre. Lorsque j'ai commencé à écrire effectivement là-dessus, on était en plein, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, bon, on y est toujours, hein, au Sahel, on est quand même un peu en plus, le sable en plus, on est quand même dans quelque chose un peu d'équivalent. Donc c'est aussi cette forme de conflit très, en réalité très contemporaine, qui apparaît dans le livre et qui est intéressante. Hein. On voit bien que toute la logique, par exemple, de cette petite armée, les armées des grandes maisons, de ces grandes maisons dans Dune, sont des petites armées par nécessité, parce que la guerre dans Dune, comme dans l'Europe médiévale, ça coûte très cher. C'est très compliqué à organiser. On a des petites armées de professionnels. Il faut passer par la guilde, donc c'est eux qui ont le monopole des transports pour pouvoir faire quelque chose. Et ça coûte également très cher. Et donc, on se retrouve avec toutes petites armées professionnelles qui font finalement, au fond, de la petite guerre, même si la trame initiale dans Dune, avec la grande offensive Harkonnen et l'empereur contre la famille Atreides, est une guerre totale, mais c'est une exception dans ce monde-là. Mais ces armées font de la petite guerre entre elles. Ces maisons s'affrontent, elles ne s'exterminent pas, parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire, parce que politiquement, ce serait très compliqué également. Et donc, elles se font des petites guerres, font des raids, elles font ce qu'on appelle maintenant dans la nouvelle doctrine la contestation. Ce que j'ai tendance à appeler de la confrontation, c'est de la petite guerre. On fait pression les uns sur les autres pour obtenir des gains politiques. Bon. Et cette forme de guerre se retrouve confrontée effectivement à un peuple qui lui, un peuple en guerre, quoi. Et là, c'est un peu, on se retrouve un petit peu dans la même configuration que les armées des princes 18e, après la Révolution française, les armées des princes européens, petites armées professionnelles face à la France révolutionnaire, quoi, et aux armées de masse de la France révolutionnaire. Et on est un peu dans cette configuration.
C'est très vrai, et on voit très bien que c'est vraiment des armées. Enfin, c'est l'habitude d'une guerre limitée, normée et structurée qui fait face à, sur Dune, et c'est pour ça que c'est un endroit intéressant, au fait de la guerre totale, puisque c'est un peuple qui est en quelque sorte en lutte existentielle totale, puisqu'il s'agit de lutter contre un envahisseur qui exploite sa planète et qui menace de la détruire. Et donc il y a une sorte de télescopage entre ce que peut être une société où la guerre est rangée dans un coin, où elle est normée, où elle est structurée, et face à une société qui est en péril existentiel et qui du coup doit se déployer totalement face à cette guerre. Et en fait, c'est là que c'est intéressant. Évidemment, Frank Herbert pouvait pas avoir en tête l'échec des contre-insurrections du XXIe siècle, mais peut-être qu'il avait en tête ceux du XXe siècle, qui n'a pas été avare en échec de contre-insurrection. Cette idée que bah, quand il y a un tel décalage et une telle dissymétrie de motivation, en fait, c'est globalement aux acteurs les plus motivés que sur le long terme, la victoire revient.
Oui, bien sûr. Alors, il y a effectivement les exemples de la guerre au XXe siècle. Alors, il mélange un peu, un certain nombre de choses. On voit très bien qu'il est inspiré par les Freemen. Ça ressemble beaucoup à la fois aux Bédouins de l'Empire arabe, des créateurs de l'Empire arabe, mais aussi à la révolte, ce qu'on appelle la révolte arabe pendant la Première Guerre mondiale. Et Herbert, notamment, était très, très influencé par le film Lawrence d'Arabie qui est sorti juste quelques années avant qu'il écrit Dune, où donc on retrouve un petit peu les mêmes choses. Hein, donc ces peuples du désert rendus forts par le désert. Donc ça aussi c'est une thématique propre à Herbert. Hein, c'est le milieu qui fait la force, milieu extrême produit des sociétés guerrières. Particulièrement redoutable. Arrive un sauveur, arrive quelqu'un, un étranger, genre Lawrence d'Arabie, qui utilise cette force potentielle, qui est encore potentielle, pour provoquer une grande révolte et puis submerger les armées régulières ottomanes. En l'occurrence, pendant la Première Guerre mondiale, qui sont complètement dépassés à la fois par la force, la vigueur, comme l'avait dit, de ces guerriers, mais aussi par leur nombre. C'est aussi une particularité. Hein, c'est-à-dire que sur Arrakis, en réalité, on s'aperçoit que il y a des millions de guerriers face à des armées, des petites armées de quelques dizaines de milliers d'individus. On se retrouve avec des millions de guerriers. Donc là, ça change la donne. Et ce qui change aussi la donne, d'ailleurs, c'est sur la guerre, hein, sur la guerre, dans la guerre sur Arrakis, c'est aussi l'alliance entre ces guerriers et quand même une maison. C'est la maison, enfin ce qui reste de la maison Atreides après l'offensive de l'empereur et Pierre Conen.
Ouais, bah alors là, on spoil évidemment allègrement, mais on va partir du principe que tout le monde a vu ou lu le Dune de Frank Herbert. Mais simplement, effectivement, et c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous soulignez, notamment, je crois que c'est dans votre post de blog, qu'en fait, c'est pas évident. Il y a une espèce d'orientalisme, de truc, de ah, c'est ces peuples qui sont coincés au fin fond des sables, c'est ça qui les rend si durs et si redoutables. Vous soulignez que, bon, oui, enfin, non, en fait, si on regarde d'une manière générale.
C'est un peu plus compliqué que ça.
Oui. Ouais, c'est pas particulièrement l'environnement qui fait le caractère belliqueux, et que effectivement on peut, enfin, la partie réaliste, c'est disons l'alliance entre un milieu, un peuple et une motivation extérieure, notamment en l'occurrence d'origine, enfin de nature mystique, qui provoque le déferlement de puissance militaire, plus qu'un truc complètement essentiel dans un milieu aride et extrême qui créerait des guerriers d'élite, quoi.
Oui, alors c'est un thème qui est présent chez Herbert, hein, que lui-même a appliqué dans sa propre famille. Hein. Il a eu une éducation, enfin, il a donné une éducation particulièrement dure à ses enfants. Et d'ailleurs, globalement, ça ne s'est pas forcément bien passé. Mais oui,
Il les a lâchés en plein milieu du Sahara pour voir ce que ça devenait.
Non, enfin, je ne sais pas. Je crois que, enfin, il était, il est aussi un peu, comment dire, dans, il est d'une époque. Pour le coup, où on croit que l'on peut modeler l'individu. On est encore dans cet esprit très issu du behaviorisme, que l'individu peut être modelé, peut devenir très différent en fonction des stimuli qui reçoit. Donc c'est un thème qui est très, très courant à l'époque. Donc lui, je crois qu'il va appliquer, je crois qu'il utilisait des détecteurs de mensonges pour l'éducation de ses fils. Bon, bref. On retrouve cette idée d'ailleurs dans d'autres ouvrages de Herbert, dans Toussaint, etc. Cette idée, voilà, un milieu extrême produit des individus forts. On va appeler ça comme ça. Ce n'est pas complètement idiot, mais ce n'est pas suffisant. Je veux dire, déjà, il y a des exemples de peuples adaptés à leur milieu extrême. Mais d'abord, qui n'ont pas donné des armées de conquérants, les peuples, je sais pas moi, les peuples indiens, amazoniens n'ont pas déferlé sur l'Amérique, les Inuits n'ont pas conquis le monde. C'est-à-dire que même on se retrouve dans une situation où ces peuples sont tellement incrustés dans leur milieu et sont tellement obligés. Enfin, c'est une lutte souvent de tous les instants pour simplement survivre. Que, voilà, ils développent pas forcément d'autres capacités. Et hors de leur milieu, souvent, ils sont complètement déstabilisés, quoi. C'est un phénomène courant. Mais comme vous le disiez, dans Dune, ce qui fait ce peuple, en réalité, c'est une sorte de boîte de Pandore, quoi, et qui reste un tas de puissance un peu latente. Mais la boîte est ouverte par l'arrivée du Messie, qui a été élu d'un Messie. Qui lui-même, dans la venue, a été annoncé au préalable. Les esprits ont déjà été préparés par l'ordre politico-mystique des Bene Gesserit. Et donc, cette idée de l'arrivée d'une sorte de surhomme. Ce surhomme, c'est donc Paul Atreides, survivant miraculeux de la grande attaque des Harkonnen. Mais donc, il y a le Messie, il y a des Atreides qui survivent à cette attaque et qui apportent leur pure compétence militaire aussi, hein, on l'oublie. Il y a les Atomiques, on en parlait. Donc, il y a aussi Paul Atreides réussit à récupérer, remettre la main sur le stock d'armes nucléaires quand même de la famille, ce qui est quand même un atout relativement important. Et c'est en réalité, on parle par exemple de combat couplé, c'est-à-dire que quand on associe des forces irrégulières, comme des Fremen à des forces régulières, et ça donne effectivement souvent un mélange qui est relativement efficace. Et tout ça, c'est ce cocktail qui donne une puissance, d'un seul coup, une puissance phénoménale. C'est un petit peu, je reparlais de la France révolutionnaire, où voilà, la France révolutionnaire, ses armées immenses, d'un seul coup, on est capable de mobiliser des centaines de milliers d'individus, ce qui ne se faisait pas jusque-là, des individus motivés, avec une forte idéologie, puis vous rajoutez Napoléon dessus. Quelques armes nouvelles, le système Gribeauval d'artillerie, etc. Enfin, et vous obtenez d'un seul coup un mélange, une sorte de conjonction de planètes, un mélange phénoménal qui permet, à l'occurrence à l'époque, de conquérir l'Europe pratiquement, et dans le cas de Dune, ben de mettre à bas complètement l'ordre existant, de renverser l'Empire, et puis même de conquérir par la suite l'Empire, quoi. Donc là, il y a ce mélange de facteurs matériels, culturels, idéologiques, qui d'un seul coup renverse un petit peu la table.
Alors, il y a un autre secteur qui est intéressant dans l'univers de Dune, c'est le secteur de l'armée elle-même, et notamment avec un grand fait majeur qui est une immense bipartition entre, d'un côté, beaucoup de soldats professionnels, mais dont on a l'impression qu'ils se valent absolument tous, que ça fait à peu près aucune différence, et un énorme élément qui d'ailleurs apparaît assez peu dans les premiers livres de Dune, qui apparaît juste au moment fatidique, que sont les légions de l'empereur, les Sardaukars, qui sont donc des troupes d'élite qui permettent de faire basculer une bataille en quelques moments, et j'y pense parce que vous parliez de Napoléon. C'est-à-dire, spontanément, aujourd'hui, quand on parle de troupes d'élite, on a tendance à penser à des commandos, à des forces spéciales, etc., c'est-à-dire à des tout petits groupes qui font basculer enfin, une bataille ou une situation militaire. Et ce qu'il y a d'intéressant dans Dune, c'est que c'est pas ça du tout, en fait. C'est des légions, c'est-à-dire c'est des groupes entiers, c'est des pans entiers de l'armée qui sont 2, 3, 5 fois supérieurs aux autres, qui sont complètement étanches et qui sont d'une supériorité totale et qui, eux, peuvent faire basculer la bataille. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans le mythe de 3, 5, 10, 15 types d'exceptions font basculer un rapport de force. Non, ça reste par la masse, ça reste par des troupes supérieures, mais il en faut quand même beaucoup, et ces troupes supérieures, dont on ne sait pas très bien d'où elles viennent, enfin on sait un peu au fur et à mesure, c'est elles qui font la différence dans l'univers de Dune militairement.
Oui, alors, mais en réalité, il y a aussi beaucoup de héros. C'est-à-dire que
Il y a beaucoup de héros, mais ils
c'est
vont pas très loin souvent, individuellement. C'est-à-dire, ils éliminent un peu des gens, mais enfin, c'est pas eux
forcément.
qui font basculer les choses, quoi.
Ben forcément, forcément. C'est-à-dire que leur action ne reste forcément limitée, quoi. On est un peu comme dans l'Iliade, hein. Voilà, vous avez des masses de guerriers, et puis vous avez quelques héros. C'est les seuls dont on connaît les noms. Et on retrouve là d'ailleurs problème inhérent, j'allais dire, de manière générale, à la culture militaire, mais aussi parfois à la culture historique, c'est comment mettre en avant des individus, créer des héros, comment avoir des héros dans une guerre de masse. C'est à la fois un problème militaire, hein, c'est-à-dire que, y compris dans l'Antiquité, hein, on combat en masse, on combat en phalange, on combat groupé. Donc la qualité que l'on demande, c'est d'abord une qualité de discipline. Et puis en même temps, ben, il faut, surtout dans les cultures un peu aristocratiques, il faut arriver à se mettre en avant. Donc il faut un combat individuel. Et ça, c'est une dialectique qu'on a toujours, y compris actuellement, hein, toujours un peu de mal à conjuguer. Comment conjuguer l'héroïsme individuel et la discipline collective. Et c'est pareil également dans la littérature, voire dans le cinéma. C'est comment le cinéma est plutôt tendance à montrer des héros. C'est quand même plus vendeur, c'est plus sexy. Mais comment on trouve des héros, comment mettre en avant des héros dans un truc très massif. Je pense par exemple dans la guerre des étoiles, comment arriver. Alors, la guerre des étoiles, on est dans des combats intergalactiques avec des armées de millions d'individus, et puis bon, bah, quand même, il faut mettre en avant. Donc on invente des subterfuges, il faut trouver le point faible dans le xième point faible dans l'étoile noire, qui va permettre de justifier de mettre en avant des petits commandos, des petits individus, etc. Là, dans Dune, oui, on se retrouve comme dans l'Iliade avec un certain nombre de héros, voilà, qu'on met en avant. Duncan Idaho, Gurney Halleck chez les Atreides, enfin bon, le comte Fenric, c'est donc des super escrimeurs, puisqu'on se bat à l'épée dans Dune, fondamentalement. Et en même temps, oui, bah, le combat à l'épée tout seul, ça gagne pas les guerres, quoi. Et donc, il faut introduire un élément intermédiaire, c'est-à-dire qu'il faut on introduit effectivement des troupes d'élite qui font la différence véritablement sur le champ de bataille. Alors, ce sont les sardaukars de l'empereur, dont d'ailleurs on peut se demander si, comment il peut les utiliser, parce que chaque fois qu'il les utilise, il trouble l'équilibre politique et ça suscite de grandes réactions. Donc, globalement, on peut se demander à quoi sert finalement cette armée. Bon.
Mais ça,
Mais
c'est très
c'est.
intéressant parce qu'effectivement, les Sardaukars, il n'y a que l'empereur qui les a. Et donc, s'ils apparaissent quelque part, on sait que c'est l'empereur qui les a envoyés. Et si c'est l'empereur qui les a envoyés, eh ben, il sort de sa position où normalement, il essaye de ne pas
Voilà.
trop se mouiller dans les conflits entre maisons. Donc, c'est une arme, effectivement, à double tranchant politiquement. Mais il reste que militairement, c'est assez fascinant le tableau qui en est fait de ces espèces de surhommes qui réussissent à venir enfin, vraiment basculer une bataille d'un coup d'épaule quasiment, quoi.
Oui, alors c'est d'ailleurs c'est bien rendu dans le film de Villeneuve, hein, la séquence, l'apparition des Sardaukars, qui est là aussi, on voit bien également le côté mystique. Max Herbert, pour être fort, il faut aussi être animé d'une sorte de foi mystique. Ce sont des gens qui, là aussi, sont formés essentiellement par un milieu extrême, une planète très tourmentée, dans laquelle on met des individus aussi, c'est une pleine prison. Voilà, cette pleine prison est très tourmentée, produit des individus particulièrement durs et forts et encadrés par voilà, la mystique, l'empereur l'obéissance totale à l'empereur. Mais comme on y revient, c'est une armée dont l'emploi politique est très délicat. Donc du coup, si elle n'est pas employée, comment acquiert-elle de l'expérience militaire? Ça, c'est aussi une vraie question. Mais bon, voilà, mais effectivement, c'est un game changer. Ce sont des gens qui font basculer les batailles. Il ne faut pas oublier non plus que, je vous le disais tout à l'heure, les armées sont petites. Il faut les transporter obligatoirement via les vaisseaux de la guilde, d'une planète à l'autre. Ça coûte très cher. Donc, on ne peut pas en embarquer beaucoup. Et donc, il faut voilà, que des soldats qui coûtent très cher, mais qui sont 3, 4, 5 fois supérieurs aux autres, ben c'est un énorme investissement, quoi,
Effectivement,
stratégique
c'est une
et
question que je
tactique.
m'étais jamais posée, c'est comment font les Sardaukars pour être si forts si en fait on les emploie jamais? C'est effectivement une très très bonne question, puisqu'on de toute évidence on les emploie pas comme commando, puisque de toute façon ils passent pas inaperçus. Donc comment est-ce qu'ils débarquent de leur prison et automatiquement ils sont supérieurs aux autres si jamais ils font de bataille en temps normal, s'ils sont purement de la dissuasion en temps normal? Effectivement, c'est une bonne question.
Il y a cette idée que voilà, ils sont intrinsèquement forts et puissants par à la fois le milieu, l'entraînement, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément évident. Une force militaire, c'est aussi des compétences tactiques, c'est une expérience, c'est tout un tas d'autres choses. Les armées de gladiateurs, enfin les gladiateurs qui étaient parfois utilisés comme unité militaire d'un roman antique ou qui se révoltaient, en fait, n'ont jamais donné, global, collectivement, des unités très efficaces en réalité, hein. Parce que voilà, il leur manque une discipline collective. Mais pour revenir à cette idée, oui, l'empereur est obligé de les masquer. Donc là, concrètement, dans le livre, ils sont utilisés pour renforcer l'armée des Harkonnen, et ils sont masqués. Donc ils utilisent des uniformes Harkonnen pour se fondre dans la masse, quoi, comme des volontaires, je sais pas, comme les volontaires chinois intervenant en Corée en 1950, quoi. Donc, il y a cette idée que,
Comme
voilà, ce n'est pas nous.
des volontaires de l'Est de
C'est
l'Ukraine
pas nous.
combattant dans le Donbass, par
Oui.
exemple.
Voilà, par exemple, voilà, c'est pas
Des
nous,
petits hommes
c'est
verts.
voilà, c'est des volontaires. Bon, certes, ils sont très organisés, ils sont très bien équipés, et ça ressemble beaucoup à des unités régulières, mais c'est pas nous. Bon, oui, il y a cette idée. Et donc, oui, c'est l'intervention des Sardaukars auprès des Harkonnen permet d'un seul coup de changer leur rapport de force. C'est-à-dire que dans ces petites guerres qui sont toujours indécises, là, on met un gros volume de force qui, pour le coup, va détruire les Atreides. C'est-à-dire que dans le jeu politique de Dune, si l'empereur ou même une grande maison détruit une autre grande maison, ça va bousculer les équilibres et ça va susciter de fortes réactions politiques. Et donc l'idée, c'est de faire ça de manière éclair. Ce qui est très compliqué dans l'univers de Dune, de détruire une grande maison. Il faut un rapport de force écrasant. Et il faut quelques éléments étrangers. Donc là, le rapport de force est écrasant. Il est obtenu par l'intervention de l'empereur, masqué, avec les différents sarrakas. Et puis, l'autre élément, c'est un peu le cheval de Troie, qui est constitué par un traître à l'intérieur de la maison Atréide et qui va considérablement faciliter la mission. Puis, un troisième élément, c'est que, qui est aussi, on peut se demander, enfin, qui est un peu étrange, c'est-à-dire qu'on déplace la maison Atréide de son fief natal, sa planète fief, donc la Caladan, sur le monde de Arrakis, en considérant qu'elle sera plus vulnérable sur ce monde, elle sera déracinée sur ce monde qui auparavant appartenait, était géré par les Harkonnen, qui ont pu préparer ainsi le terrain. Et donc voilà, ça c'est le plan initial, mais qui est en réalité un plan très compliqué qui comprend un certain nombre d'inconnus et qui donc mécaniquement, fatalement, à long terme, était voué à l'échec. Voilà, mais il y a cette idée, alors c'est intéressant dans la mesure où les Atréides, la maison Atréide, se disent descendants d'Agamemnon, on revient à la guerre de Troie, et qui sont finalement trahis par une sorte de cheval qui se trouve cheval de Troie qui se retrouve à l'intérieur de la maison, qui a une mission très compliquée au passage, hein. Là on spoil complètement, mais où il doit à la fois tuer le duc Leto et le chef de la maison Atréide, et en même temps abaisser les défenses, parce que il y a quand même un élément technologique important qui est ce qu'on appelle les champs de force Holtzmann. Donc c'est des champs de force, voilà, qui protègent comme des châteaux forts, les sites principaux et qui protègent aussi les individus, hein.
Alors ça, c'est très intéressant, c'est la dernière chose dont j'aurais aimé vous parler. C'est il y a un truc qui, pour le coup, je trouve que le film, alors je vais dire que j'ai beaucoup aimé le film, mais je trouve que c'est un vrai plus par rapport au roman, parce que c'est un truc que j'avais un peu du mal à me figurer par rapport au roman, c'est effectivement cette histoire de champ de force, et notamment c'est cette histoire d'escrime, et ces batailles à l'épée, qui sont fascinantes parce que Herbert prend un parti pris qui est très contraire à ce qu'on pense intuitivement de l'art de la guerre, qui est qu'il faut être explosif, il faut être précis, rapide, etc. Et en gros, ces champs de force sont donc des armures individuelles qui ne peuvent être pénétrées au contraire que si on va lentement, qui ne protègent que contre les attaques rapides et brutales. Et du coup, si on veut les défaire, il faut réussir à être lent dans un combat qui est par ailleurs très rapide. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait fascinant, très difficile à visualiser en lisant le roman, et j'ai trouvé ça assez bien rendu dans ce qu'a fait Denis Villeneuve. Alors, qu'est-ce que vous pensez à la fois de cette idée herbertienne et en même temps de la manière dont ça s'est représenté, ça dit quelque chose?
Oui, alors c'est un peu, un coup de génie du roman. C'est un truc très intéressant qui permet de réintroduire le duel à l'épée. Quand même, donc les gens se battent à l'épée dans un univers de science-fiction qui est par certains côtés aussi de très haute technologie. Donc les gens reviennent au combat à l'épée avec une escrime très particulière, puisque comme vous l'avez dit, il faut pénétrer le bouclier de manière très lente. Soit l'arme blanche, soit il peut y avoir des projectiles aussi. Dans le roman, on parle de pistolet Imola, qui envoie des balles extrêmement lentes pour pouvoir pénétrer ce bouclier. Et donc ça réduit effectivement l'art du combat, alors pas l'art de la guerre, mais l'art du combat à du combat rapproché, qu'on pourrait imaginer aussi collectif, hein, pour imaginer le combat de phalange, etc. Mais qui introduit une escrime particulière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces boucliers n'opèrent pas dans le désert d'Arrakis. Sinon, ils énervent les gros vers, les vers géants, et c'est jamais une bonne idée d'énerver
Jamais
un vers
énervé un
géant.
argent, ouais.
Et donc, par exemple, les Freemen ne se battent pas n'utilisent pas de boucliers et ne se battent pas selon cette escrime. Ce qui leur donne d'ailleurs un avantage pour le coup tactique face à des soldats Conan ou Sardaukar, etc., qui eux sont formés à cette escrime inverse. Donc eux se battent de manière tout à fait classique. Et puis oui, effectivement, c'est bien rendu. C'était bien rendu plutôt. J'aimais bien ça aussi dans le film de Lynch, dans la version de David Lynch. Et ça, c'est. Mais ça oblige, voilà, à vraiment du vrai duel avec des combats très rapprochés. Il faut vraiment que les individus soient vraiment en contact. Ils doivent se toucher véritablement pour pouvoir arriver à se porter des coups. Des coups. Au passage, ça rend le combat très compliqué aussi, hein. C'est-à-dire que c'est très compliqué de tuer des combattants adverses dans Dune. C'est la défense, d'une manière générale, l'emporte très largement sur l'attaque. Donc ça, au niveau individuel, ça rappelle évidemment les grandes armures, les armures très sophistiquées de la fin du Moyen Âge, où il est très compliqué et où en réalité très compliqué de tuer un chevalier. Si on veut vraiment le tuer physiquement, il faut trouver un interstice dans le, dans, il faut généralement le mettre à terre et puis trouver un interstice dans la chevalerie. Au moins, et encore, et sachant que les chevaliers à l'époque ont une autre protection qui est une protection sociale, quoi. Il suffit qu'ils lèvent la main et qu'ils disent rançon, je paye, et puis la guerre s'arrête là. Donc les chevaliers meurent relativement peu, sauf dans certaines batailles, mais meurent relativement peu au Moyen-Âge. C'est finalement un peu le cas aussi dans Dune, c'est dur. C'est dur de tuer un combattant adverse. Et c'est dur, pour le coup aussi, de faire de grandes batailles, c'est dur de gagner des batailles, c'est dur de gagner des guerres. Donc normalement, c'est des choses qui peuvent durer très longtemps. Mais dans le livre, même quand Paul Atréides devient le grand messie, le grand leader des Freemen, et qu'il mène une guérilla, c'est une guérilla qui dure pendant 5 ans, quoi, avant d'amener aux conditions qui vont permettre d'avoir une bataille décisive, une nouvelle bataille décisive.
C'est très
Peut-être.
vrai. C'est très vrai. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est que ça montre un monde globalement statique qui, d'un coup, est emporté par quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une espèce de souffle épique dans ce roman. C'est qu'on montre un truc un peu gangréné, cadenassé, corseté, qui, d'un coup, saute sous l'effet d'une pression. Et notamment d'une. Alors, on en a déjà parlé un peu, mais d'une pression mystique, religieuse, ce qui pose aussi de manière assez intéressante, disons, l'interaction entre un appareil militaire, un dispositif tactique, et ce qu'on pourrait éventuellement qualifier de supplément d'âme pour faire basculer les choses. C'est-à-dire que, disons, à équilibre stable, enfin, à système stable, doit répondre à un élément perturbateur qui, généralement, passe pas vraiment d'un point de vue capacitaire, qui passe plus d'un point de vue moral, psychique, voire religieux.
Oui, je reviens un peu à cette métaphore de la Révolution française, c'est-à-dire que d'un seul coup, enfin, les armées sont aussi des structures socioculturelles, hein, qui reposent également sur un certain nombre de présupposés. Au moment du XVIIIe siècle, on est encore dans un système aristocratique où l'aristocratie se réserve le monopole. Même pas de l'emploi de la force, mais de monopole de certaines valeurs. Pour dire simple, seuls les nobles disposent de l'honneur et sont capables de se battre courageusement. Alors, ils utilisent des soldats professionnels, mais qui, eux, par définition, sont dépourvus d'honneur et qui doivent être soumis à une très grande discipline. Et la grande force, en réalité, de la Révolution française, de grande force militaire, c'est de dire, ben voilà, non, des roturiers, des simples roturiers peuvent également devenir des soldats. Parfois, changer simplement le regard sur les individus, ça change complètement les perspectives militaires, les perspectives stratégiques. Considérer que de simples individus peuvent devenir des soldats guerriers. Ça change les choses. Fondamentalement, il y a deux grands modèles. Il y a l'idée que tout homme libre est potentiellement guerrier, et puis il y a l'idée que la guerre s'est réservée à des soldats professionnels. Et donc ces individus libres et citoyens, ils payent l'impôt à l'État qui, lui, va, avec cet argent, disposer de soldats professionnels qui, eux, vont faire la guerre. Donc c'est deux modèles qu'on retrouve encore, hein, même l'éthos un peu américain, il y a cette idée du milicien, du soldat citoyen qui prend son arme, qui va faire la guerre, par exemple. Mais dans d'autres cultures plus européennes, notamment, c'est intéressant d'ailleurs, c'est pendant la guerre de 100 ans, notamment, qu'en France, on décide de passer d'une logique à l'autre et de professionnaliser complètement l'armée, de réserver l'acte militaire à certains individus particuliers. Mais quand on change d'un seul coup de bascule, on se retrouve effectivement avec d'autres logiques. Quand on envoie des petites armées, soldats professionnels, combattre en Afghanistan dans des provinces pachtounes, où globalement il y a encore une culture guerrière et vous avez à peu près 10 millions d'hommes jeunes prêts à porter les armes, c'est forcément ça devient très compliqué. On a cette logique aussi, c'est une logique d'éloignement, les soldats professionnels qui peuvent partir combattre loin face à une force, Carl Schmitt appelle tellurique, des gens sur place qui ont les pieds ancrés, mais qui défendent leur terre et qui ont une culture guerrière et qui sont nombreux. On y revient aussi. Et là, cette petite armée se retrouve noyée dans ce milieu où on peut tuer tant de guerriers que l'on veut, il en surgira forcément d'autres. C'est ce qui se passe sur Arrakis, quoi. Cette différence que cette force après est employée pour sortir de la planète et pour conquérir l'univers, quoi. Ce qui arrive quand même exceptionnellement.
Et ce qui arrive aussi assez rarement dans le monde réel. Merci beaucoup
Voilà.
Michel Goya. Donc je renvoie évidemment au roman de Frank Herbert, au film de David Lynch qui date un peu plus, mais dont vous l'avez dit. Enfin, par ailleurs, faut le voir plutôt avant le film de Denis Villeneuve, c'est mieux. Mais c'est aussi tout à fait intéressant et c'est assez réussi à certains points de vue. Et puis évidemment, ce très grand film, je trouve en tout cas, de Denis Villeneuve qui doit être encore en salle très largement et qui, à mon avis, va être à voir, à revoir. Et puis on vient d'annoncer à l'heure où on enregistre qu'il y aura une deuxième partie, ce dont on ne peut évidemment que se réjouir vivement. Merci beaucoup, Michel.
Merci à vous.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.